Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. On est avec Christophe Cessieux ce matin, avec Fred Weiss, avec Alizé Cornet et Sarah Pitkowski. Vous pouvez retrouver les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. On a parlé de quoi? On a parlé de la France qui est un pays gagnant désormais. On a parlé de Novak Djokovic qui inquiète ou n'inquiète pas après sa défaite à Rome hier à 2 semaines de Roland Garros. Bref, tout ceci est déjà disponible évidemment. Dans un instant, sur le buzzer des GG, le Real et l'Olympique de Marseille mettent un peu le feu à leur vestiaire. Est-ce qu'on en fait trop avec les tensions de vestiaire? C'est à vous qui avez été sportif de haut niveau. Comment ça se passe vraiment? Et est-ce que ces moments-là sont tellement importants? En tout cas, l'importance qu'ils ont médiatiquement ensuite et pour les supporters. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable minotée au design épuré de Lexon qui peut se transporter partout, Fred, grâce à son
mousqueton.
Pour gagner votre enceinte, Lexon qui a donc un
mousqueton.
Appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
C'est dommage que vous n'aviez pas un bruit de porte. Genre, ouais. On ouvre les portes. Les vieilles portes. Attendez, bien usées.
Alban, notre réalisateur, est-ce que tu as enregistré l'effet spécial qui vient de nous faire réaliser? Ça peut nous servir du coup désormais comme jeu. Il va falloir les graisser un peu. Non, cette
porte. Oui, parce qu'elles sont. Voilà, on n'est plus de toute jeunesse, donc elles sont un peu.
Non, mais là, aujourd'hui, il y a des effets spéciaux. Entre Alizé qui fait la porte, Christophe qui fait le tché. C'est quand même.
Mousqueton.
Et puis Maxime Abelin, notre producteur, est très très fort aussi en divers bruits. Ouais. Il imite très bien Jean-Luc Roy, par exemple.
Ouais, et les cigales. Mais bon, ça, voilà. Un jour, on fera profiter les auditeurs, hein, parce qu'il faudrait qu'ils comprennent
la saison, peut-être.
L'envers du décor. Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est ça.
C'est les mousquetons.
En juillet prochain, j'aurai quand même une course.
Ah bon?
Ouais.
C'est-à-dire, laisse-nous deviner.
Devine.
Tour de France.
Ouais.
Oh, ah, ben là. Ça y est, c'est décidé. C'est
Voilà, vous avez écouté Paul Sexa chez ses grands-parents pour annoncer la grande nouvelle. C'était surtout ça, ce que vous avez écouté cette semaine. Bon, tout le monde l'a signalé, hein, comme une masterclass de communication, ouais. Mais comme quelque chose de sincère aussi, peut-être pour Paul Sexa. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, de l'importance de créer et de raconter sa propre histoire comme Sexa, quand on est sportif de haut niveau, l'importance de se raconter finalement, à quel point ça l'est, notamment en début de carrière, pour vous et tout au long de votre carrière de sportif de haut niveau. Tiens Fred, toi, pour le coup, c'est vrai, toi tu t'es plus raconté finalement après ta carrière.
Il se la raconte souvent.
Il se la raconte tout le temps, pas souvent.
Non mais c'est vrai que tu t'es plus raconté après ta carrière finalement, avec notamment le documentaire de Canal+, Little Big Fred, où tu t'es confié un peu sur tes failles et ta carrière. Pendant ta carrière, comment
j'ai
tu as subi?
Bah, j'ai subi, oui, j'ai subi. En fait, je suis arrivé, j'étais un des premiers garçons de 2m17 qui bougeait correctement. Donc d'un seul coup, on s'est dit, enfin, c'est formidable, on va avoir ce joueur de basket incroyable, sauf que moi, je viens d'un village de 1000 habitants. Et donc d'un seul coup, j'ai pris tout dans la face et j'avoue que c'est pas comme ça que j'avais envie de le raconter. Mais après, il faut recontextualiser. On était à une époque où l'athlète était un super héros et donc on pensait qu'on pouvait facilement le mettre exactement où on souhaitait le mettre. En fait, moi, j'ai toujours subi. Juste pour l'anecdote, on m'a appelé The Answer, la réponse.
Ah oui,
ah oui, moi, c'est Néo, quoi, c'est The One.
The One, mais c'était un peu ça, mais vraiment.
La réponse à tous les
l'éluche.
En fait,
alors qu'aujourd'hui, tu serais plutôt le problème pour aller décorer.
Pour aller. Non, en fait, il faut se rendre compte, on n'avait jamais eu de grand. Et en fait, pour gagner au basket à l'époque, ça a un petit peu changé, même si.
C'est vrai qu'il est tout petit.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, on est, mis à part Wemby, qui est quand même une anomalie, entre guillemets, on est un petit peu moins grand, surtout en NBA, par exemple. Mais à cette époque-là, on considérait que pour performer, il fallait être très grand. Et donc, on a mis sur mes épaules le poids d'une nation. Et j'avoue que j'aurais voulu, et je suis ravi pour les jeunes de maintenant qui peuvent reprendre le storytelling, raconter leur histoire de leur manière. Mais c'est vrai que moi, on me l'a imposé et que parfois j'étais pas dans les clous parce que c'était pas mes attentes.
Mais alors c'est quoi, qu'est-ce que tu aurais voulu raconter?
J'aurais voulu raconter.
Tu aurais voulu dire j'aime juste le basket, je suis un gars de Lorraine.
J'ai de l'ambition, je veux être très bon, mais commencez pas à dire que je vais sauver la nation, commencez pas à dire que sans moi le basket est fini, etc. Faut se rendre compte que j'ai eu des articles de ce type quand même. Et j'avoue
qu'aujourd'hui il y a une maîtrise de son propre récit qui est un peu plus importante que par le passé.
C'est plus simple aussi parce qu'on écoute de plus en plus les gens aussi. Parce que je sais pas si vous avez lu ou entendu ce qu'avait dit Victor Wembanyama quand il explique que il ne doit pas être dépendant de ses émotions. C'est-à-dire qu'en gros, s'il a envie de pleurer, il va pleurer. S'il a envie de faire ça, il va le faire. À mon époque, c'était pas possible. À mon époque, le fait de pleurer, le fait de se plaindre, de dire que t'es pas bien, c'était un aveu de faiblesse. Et donc, tu pouvais pas.
Et en racontant son histoire, en plus, il prépare le public et les médias aussi quand la situation va arriver pour qu'on le comprenne un peu plus.
Il crée son storytelling, il explique qui il est vraiment.
Et il le crée, mais il est sincère.
Il le crée dans le sens où il est maître de son storytelling.
Voilà qui je suis.
Exactement.
Mais quelque part, il a un peu les mêmes faculté que toi, ça, c'est la réponse à tout ce qu'on se pose comme question dans le basket. C'est l'élu, celui
mais
qui
lui l'a choisi.
Ça ressemble un peu à ce que je suis d'accord, mais lui effectivement il l'a choisi. En fait c'est différent de se dire je veux être l'élu, je veux être le meilleur, plutôt que de dire tu es l'élu, tu es le meilleur. C'est pas exactement la même posture, et j'aurais aimé que les gens comprennent que je suis un mec sensible, que c'est pas toujours facile pour moi d'enchaîner, que cette pression était peut-être innécessaire, alors que lui, c'est un mec qui est né pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour ça, et je suis ravi pour lui que lui ait ses épaules pour le faire. Tout le monde les a pas, en fait.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, on parle de l'importance de raconter son histoire quand on est sportif de haut niveau, en tout cas être peut-être maître de son récit comme le fait Paul Seixas. Alors Sarah, toi t'as une double casquette aujourd'hui, ancienne sportive de haut niveau, et aussi tu travailles dans la communication, tu accompagnes parfois des sportifs justement, et tu les conseilles pour savoir comment justement faire avec leur histoire. Déjà toi, sur ta carrière de sportive, est-ce que c'était important pour toi de raconter qui tu étais au début de ta carrière, par exemple, te présenter?
Oui, mais on n'avait pas les outils pour. On n'avait pas les outils pour, puisque en fait le seul moyen de te juger, ou en tout cas que les gens te jugent, c'était sur la prestation, tes matchs en fait, puisqu'on avait le seul moment où on s'exprimait, c'était en conférence de presse.
Oui.
Il y avait pas de contenu au-delà finalement du tournoi. Donc les gens ou les médias te percevaient que parce que tu donnais en conférence de presse. Donc il pouvait y avoir un décalage parce que encore une fois, je le répète et j'arrête pas de le répéter, au tennis tu perds plus que ce que tu gagnes et que tu perds chaque semaine. Donc tu te présentes souvent en ayant perdu. Et je pense que ça a été, en tout cas moi, ça a été quelque chose qui a été lourd. Très lourd à porter, parce que ce que j'étais sur le terrain n'était pas ce que j'étais à l'extérieur, mais j'avais pas les moyens de le montrer autrement. Et ce que je vivais sur le terrain était tellement un tremblement de terre que j'arrivais pas à passer au-dessus de mes émotions. Donc on me jugeait. Finalement, on me jugeait sur ce qui se passait sur le terrain.
Tu d'accord, tu penses que l'environnement médiatique et des spectateurs ont peut-être eu du mal à comprendre qui tu étais, mais finalement, en ta carrière? Ils n'ont jamais compris.
J'avais compris, je ne sais pas.
Plus difficile. Pas, en fait.
mais parce que tu n'avais pas les moyens de te faire connaître.
Mais bien sûr, mon
pareil, aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est l'avènement des médias digitaux, mais en fait, ça n'a pas que du négatif. C'est-à-dire que tu peux raconter ta propre histoire, tu peux te montrer comme tu veux.
Il y a des médias de confidence presque aujourd'hui.
Oui,
en fait,
et puis t'es ton propre média. Donc si tu veux jouer la sincérité, tu racontes ton storytelling. Si tu veux jouer la carte de jouer un rôle, tu joues un rôle à toi d'assumer les conséquences de ce que tu présentes, en fait. Et c'est ça où, finalement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un gain par rapport à ça, et c'est important. Parce qu'en fait, tu vends ton image sur le terrain, mais tu vends ton image en dehors. Et ça, c'est important. Et c'est ta valeur, et ça peut être ta valeur marchande. Donc voilà, il faut être capable de s'aligner sur ce genre de sujet.
Alizé, pour le coup, dans ta carrière, c'est vrai que nous, on est tous marqués, je pense, par tes débuts. On se souvient, c'était la lycéenne qui joue à Roland-Garros contre son idole, Amélie Mauresmo. C'était quelque chose que tu voulais raconter ou qu'on a raconté à ta place? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on veut dire de soi, sur l'image qu'on veut renvoyer, sur ce storytelling dont on parle depuis tout à l'heure. Moi je l'ai un petit peu fait quand même, ce storytelling. Inconsciemment, je pense, dès le début, j'ai toujours pris le parti d'essayer d'avoir une bonne relation avec les journalistes, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Sarah, en fait, les seules choses sur lesquelles les gens pouvaient nous juger, c'était les articles. Alors, c'était les prestations sportives, certes, mais c'était aussi les papiers qui sortaient après ces matchs. Et au final, même après une défaite, on avait l'occasion de dire quelque chose sur soi, sur son ressenti. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un livre ouvert, peut-être trop, mais j'ai pris ce parti de me confier et de toujours mettre un genou à terre quand je le devais, prendre mes responsabilités, partager mes émotions, mon ressenti, en me disant que au mieux les journalistes allaient apprendre à me connaître et au mieux ils allaient réussir à faire passer une image, on va dire, fidèle de qui j'étais. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'au cours de ma carrière, ce qu'on a écrit de moi était quand même plus ou moins fidèle à ce que j'étais. C'est-à-dire que j'avais un sacré tempérament, certes, mais il y avait effectivement aussi cette histoire à mes débuts de bon élève, de lycéenne qui passait son bac en même temps que ses premières années à Roland. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai choisi de partager. Mais c'était un choix, c'était un parti pris, en fait, que j'ai fait très tôt et que j'ai continué à faire tout au long de ma carrière.
Au début, t'es pas sûr de l'avoir fait consciemment. C'était quelque chose que t'avais
assez
en toi.
Instinctif.
Après,
C'est,
et puis après, au fur et à mesure des années.
Et après, contrairement à toi, moi, j'ai eu l'avènement quand même des réseaux sociaux où j'ai pu raconter ma propre histoire. Mais c'est vrai que sur les cinq, six premières années de ma carrière, c'était quand même, ça dépendait beaucoup des journalistes et de ce que je
disais. Finalement, c'est la meilleure manière de contrôler son image plutôt que de laisser libre cours si tu te fermes.
C'est ce que je me suis
dit.
Si
tu donnes pas d'interview, les papiers qui peuvent être écrits peuvent être complètement faux.
Les papiers vont être écrits. Ouais. Donc s'ils ont rien à se mettre sur leurs dents, sous la dent, ils vont forcément spéculer, raconter une histoire qui n'est pas la nôtre. Et moi, je me suis dit, au plus je donne des infos et au plus ça risque de rester dans la lignée de ce que je veux montrer. Après, on ne peut pas tout contrôler de toute façon. Ce qui est écrit dans la presse, à un moment donné, il faut s'en détacher. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était mon pari.
Et tu as eu des bonnes relations avec les journalistes.
Très bonnes. Voilà. Excellentes, du début à la fin.
Et tu sens que de fait d'avoir des bonnes relations avec ces gens-là, qui te suivent au quotidien, a fait que ton image est restée plutôt positive.
Le truc, c'est qu'après, mon image, elle a eu aidé au débat, mais j'en étais la seule responsable, puisque quand je me comportais mal sur le terrain, finalement, les journalistes, ils n'étaient pas là pour m'enfoncer. Ils essayaient de retranscrire ce qui se passait sur le court.
Mais parce qu'en fait, dans ce que tu as dit de toi, c'était très sincère. Tu as dit, voilà qui je suis.
J'ai toujours été très sincère.
Et vous me prenez comme je suis, en fait.
Ouais, exactement. Donc vous comprenez un peu plus. Ça ne marche pas pour tout le monde.
Moi, non, ça ne marche pas pour tout le monde.
Surtout, moi, j'ai une génération, je suis un peu plus âgé que toi, déjà. Je suis un homme, et à l'époque, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des failles. Il faut se rappeler de ça aussi.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai que moi, j'ai eu parfois de très mauvaises relations avec la presse, parce qu'ils pensaient que j'étais nonchalant, etc. Sauf que mon attitude, j'ai l'air nonchalant.
Est-ce que tu t'es vraiment livré?
Victor Wembanyama, moi, en fait, je joue un poste où normalement t'es l'énorme bourrin qui tape sur tout le monde, d'accord. Je schématise un peu pour les non-basketteurs. Et en fait, quand je vois Victor Wembanyama qui explique qu'il joue aux échecs, qu'il lit des livres, etc. En fait, j'étais ce mec-là.
Ouais.
J'étais ce mec qui, j'étais dans mon collège privé, pendant que tout le monde entre midi et deux allait faire du sport, moi je jouais aux échecs avec les mecs. Mais à notre époque, c'était pas intéressant de parler de ça. Ce qui était plus intéressant, c'est de dire ce joueur fait ça.
On restait sur le sportif un peu plus.
Je suis pas d'accord avec toi. J'ai un exemple à te donner.
Moi, j'étais souvent considéré comme un des mecs qui répondait le mieux à la presse en basket. Et j'étais plutôt ouvert, etc. Sauf que. À l'époque, et alors je ne parle pas de toi, hein, je parle des gens en général, l'intérêt de gratter un petit peu, de se dire, c'est pas qu'un énorme bourrin, il sait lire, déjà c'est pas mal, il sait jouer aux échecs, etc., ça n'intéresse
mais
pas.
Mais tu veux dire, on vous enfermait un peu facilement dans les cases aussi.
On se mettait dans les cases beaucoup plus facilement. Victor Wembanyama me fait, j'avoue que quand il parle des échecs, ça me fait rire, parce que je me dis, en fait, je faisais ça à l'époque et personne n'a jamais dit c'est génial.
J'ai un contre-exemple total un mec qui s'appelle Serge Chimon, qui a présenté les grandes gueules du sport avec Sarah, avec moi.
C'est un rugbyman.
Qui était rugbyman, qui était sur le terrain, qui était une bête fauve, qui mettait dans les doigts dans les yeux de ses adversaires, qui se bagarrait, qui était le grand copain de Vincent Moscato et qui, en plus de sa carrière de sportif de haut niveau, était médecin. D'ailleurs, il avait fait des études de médecine très poussées, il était spécialiste et tout. Et justement, lui, il a pas voulu s'enfermer. Alors, sous le terrain, il s'enfermait vraiment dans ce personnage de bad boy, de méchant garçon, de mec qui était capable de faire tous les coups. Mais dès que tu le sortais du terrain, c'était un mec avec qui tu pouvais parler de tout, de culture, de peinture, de musique, de politique. Et tu vois, mais c'est lui qui a imposé finalement aux gens qui venaient l'interroger en lui disant OK les gars, sur le terrain je suis une brute, mais je ne suis pas
ça. Ah oui, mais justement, ouais, mais il a raconté son histoire.
Il a réussi à prendre le cours de son narratif, mais moi, quand on venait me poser une question, en fait, ça dépend comment tu
orientes. Tu peux pas rediriger le débat tout le temps vers ceux dont tu veux parler.
Si quelqu'un vient en te disant, ouais, c'est bien, t'as donné les coups qu'il fallait.
Non, mais en fait, j'ai envie de parler d'échecs et de livres aujourd'hui.
C'est pas possible. Les mecs, ça les intéressait pas du tout.
Il y parvenait.
Il forçait le débat, en fait.
Après, c'est une intelligence supérieure. C'est un mec brillantissime. Donc, il recadrait. Ça allait dans le sens qu'il voulait donner, quoi.
Non mais en fait c'est quand même essentiel. Je sais pas, Alizé aujourd'hui, bah t'es capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup par exemple. T'es plus dans la transmission par exemple. T'es avec des jeunes femmes, des jeunes athlètes, mais qui sont avant d'être des jeunes athlètes des jeunes femmes. Est-ce que ça fait partie des discussions que tu as aussi sur l'importance, je sais pas, de dire qui vous êtes, de faire attention, peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce que toi c'est des réflexions que tu as en tout cas dans ce que t'as envie de transmettre aux jeunes athlètes?
C'est une très bonne question. Moi, j'essaie de faire en sorte de leur faire un peu mieux vivre leur carrière pour ce qui est de leur image et de ce qu'elles veulent raconter. Pour l'instant, moi, je m'immisce pas là-dedans. Elles sont toutes des adultes et elles ont toutes les outils, comme disait Sarah, pour finalement le faire elles-mêmes à travers leurs réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien de les sensibiliser finalement sur cette image qui va les suivre toute une carrière.
Et
c'est vrai
et que même après.
Et même après, j'ai eu des conversations notamment avec Elsa Jacquemot, qui a un début de carrière un peu clivant, qui a fait beaucoup parler d'elle, pas dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on sent là qu'elle a envie quand même de retourner la situation parce que c'est une fille super attachante. Et en fait, le grand public ne le voit pas, ça.
L'image ne correspond pas. Et ce qu'elle est ne correspond pas à l'image que l'on en a eue.
Mais
c'est pour ça que c'est intéressant.
Et Christina Mladenovic, par exemple, qui était ta copine, qui elle a une image pas terrible non plus auprès du grand public. Parce qu'elle aime pas les journalistes, elle aime pas donner des interviews.
Ah, c'est drôle. Ah, on n'a pas la même vision des choses de l'intérieur. Moi, j'ai pas cette vision là, mais en tout cas, oui, ça se travaille et en fait, c'est bien d'en avoir conscience. Après, on peut s'en foutre. Moi, je pense qu'il y a des athlètes vraiment qui traversent ça et qui se disent tant que mon cercle proche sait qui je suis, ça suffit. Ouais. Et finalement, je m'en fiche de savoir ce que pensent les autres au sens global du terme.
Vous avez moins besoin de journalistes. Il y a des influenceurs qui sont là pour vous.
Mais d'autres comme moi qui ont quand même qui préfèrent. En tout cas, qui donne un peu plus d'importance à ce que les autres peuvent penser et qui préfère avoir quand même une image un peu plus fidèle.
Mais pourquoi c'est hyper important? Parce que on rebondit évidemment à la vidéo de Paul Sexas cette semaine et son annonce, mais parce que la façon dont Sexas se présente, d'aller voir papy et mamie,
c'est trop mignon.
Voilà, dans le fin fond de la France, leur annoncer la nouvelle,
vidéo montrer, un peu à l'ancienne,
de montrer l'importance que ça a le Tour de France pour les Français, pour ses grands-parents, pour lui, ce que ça représente. Il y a quelque chose dans l'histoire qu'il veut raconter. Du lien qu'il a envie d'avoir avec nous, en fait.
C'est-à-dire très humain.
Voilà, exactement.
Très proche.
Il construit.
Est-ce que c'est lui
avec sa communication, il construit un lien avec nous.
Non, mais c'est pas lui, pas son idée à lui.
Ouais, voilà.
Mais peut-être, Sarah. Laissons lui le bénéfice du doute.
Non, mais
Sarah, toi qui travailles dans la com.
Il a des gens qui sont. Il a des gens de l'équipe. Et il a une équipe que pour lui, Paul Sexas, en communication. Il a son propre attaché de presse. Et je pense que c'est travailler aussi pour. En fait, tu construis pas une image qui n'est pas la tienne. Il a été forcément guidé en disant on pourrait le faire comme ça. Et comme tu le disais, c'est très juste parce qu'on parle d'un sport populaire. Le cyclisme est un sport populaire, est un sport pratiqué par, je sais pas, des millions et des millions de Français.
Le Tour de France
est un sport. En tout cas, le Tour de France est un événement régional, gratuit, où on va tous à un moment ou un autre au bord de la route. Et ses grands-parents étaient les personnes qui étaient au bord de ces routes. C'est tout à fait le public qu'on voit au bord des routes. Donc en fait, ça a été pensé par rapport à ce qu'il est, par rapport à son sport et par rapport à l'image qu'il veut donner.
Par rapport à ce que nous sommes, Français.
Et qui correspond à ce qu'est le Tour de France dans le monde entier. Le Tour de France, c'est le Tour de la France, donc le tour de toutes les régions. Mais je pense pas, enfin, il a autre chose à penser que de se dire,
après,
bon, alors comment je vais l'annoncer?
Il valide ce genre de projet, il y adhère et ensuite il y va.
Mais effectivement, c'est pas lui qui a eu cette idée au départ.
Parce qu'en fait, c'est déterminant, parce qu'on en parlait avec Sarah en préparant l'émission. Ça aurait été, je pense, en termes d'image, je sais pas si catastrophique, mais complètement différent si Paul Sexas était allé sur le plateau du 20h de Gilles Boulot sur TF1 en disant, oui, je vais faire le Tour de France. Il y aurait quelque chose de très arrogant et qui aurait été marquant. Dans son histoire et dans l'histoire qu'il aurait eu avec nous, on aurait dit mais qu'est-ce que c'est que
mais
ce gars,
c'est en décalage, mais par rapport à lui, mais par rapport à son sport à lui.
Pour moi, c'est un coup de maître.
Ah ouais, non mais moi c'est.
Qu'est-ce que tu dis aux sportifs avec qui tu travailles par exemple?
C'est de la sincérité.
Ça passe
et
toujours
si
mieux.
Tu es si tu es sincère dès le début, quand ça ira moins bien, on ne te tombera pas dessus. C'est-à-dire qu'il y aura une clémence. Il y aura une bienveillance. Voilà. Mais si tu joues un rôle, à un moment, l'effet boomerang, il arrive ouais, toujours.
Alors, j'ai Nico sur WhatsApp. On va refermer la porte du vestiaire, évidemment.
Il me dit... Et moi, je vais mettre le mousqueton.
Non, mais qui me dit... moi, je regarde surtout le sport pour les performances sportives, pas forcément pour les histoires et tout ça. Et oui, mais aujourd'hui, il y en a, effectivement, comme ça. Mais c'est quelque chose de plus global. Alors, c'est pas pour rien s'il y a de plus en plus de documentaires, par exemple, sur les plateformes, qui racontent les sportifs dans leur intimité.
Il y a une
demande sur ça, exactement. Ouais, et si la Formule 1 remarche aujourd'hui, c'est aussi parce que le public a appris à connaître un peu plus
les pilotes. Moi, ce qui m'intéresse dans le sport, ce sont les histoires humaines, ouais, les constructions de champions et tout ça, plus que la performance sportive en elle-même.
On a parlé du Giro et de Paul Magnier. Quand je vois qu'on a ça sur le conducteur, je suis allée regarder le même reportage que toi. Et donc, je me suis fait une image de ce jeune de 22 ans, Paul Magnier, de ce comment. Mais comment tu veux que je me fasse une image de lui si je vois juste ces 500 derniers mètres où il fait un sprint? Tu veux que je me fasse une idée
auditeur et auditrice, de cette personne? Pensez un peu chez vous à quelle importance ça a eu dans votre relation avec le sportif de voir Kylian Mbappé sur TF1 dans le journal annoncer, dans le journal de TF1 qu'il allait prolonger au Paris Saint-Germain. De voir Antoine Griezmann annoncer dans une vidéo montée ultra marquée était sa décision d'aller au Barça. Quelle incidence a eu sur votre relation?
LeBron
James annonçait la mise en scène, ouais, The Decision, quitter son équipe de toujours les Cleveland Cavaliers pour aller à Miami. Ça a eu une incidence dans le lien sportif et le public. Ce n'est pas du tout anodin, ce dont on parle, c'est central.
Et en même temps, l'image, l'identité d'un Aimé Jacquet, par exemple, vu dans les yeux, dans les bleus, a complètement été changée par le documentaire. Ouais. Et il est devenu une icône nationale, non seulement parce qu'il avait remporté la Coupe du Monde, mais après, avec ce documentaire qui a fait entrer les Français dans cette pantoufle.
Muscle sans jeu, Christophe.
Attendez, je crois qu'on a pas bien fermé la porte du vestiaire.
Oh, c'est parfait! Ah, il est fort.
Mais c'est pas un vestiaire, c'est thriller.
vous venez d'entendre Alizé Cornet, c'est un délire quand même. Elle est à un niveau d'effet spécial, c'est incroyable. Bon, allez, dans un instant, restez avec nous, mais vous inquiétez pas, puisque le jingle et la pub vont être faits par Alizé. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le moment de vérité, les jeux du sport, Julien Beneteau n'est pas là, tout le monde peut gagner autour de la table. Même Alizé Cornet, même Sarah Pitkowski, même Fred Bass, même Christophe Cessieux. J'avais commencé, j'allais juste dire même Alizé Cornet, j'ai vu sa réaction, je me suis dit, je vais faire attention, parce
attention
que là,
aujourd'hui un peu, ouais, c'est...
à tout moment.
Mais je reste sur 6 victoires consécutives, 5.
C'est vrai. Non, c'est Marin Bartoli qui est pas dans une grande séquence en ce moment. Ouais. Et derrière, ça a une vraie incidence sur Bartoli Time. Hein. Faut vous le dire. Tout comme Christophe dans l'intégral sport l'après-midi s'il ne gagne pas. Allez d'abord sur le ring, les amis. Ce qui se passe dans le vestiaire ne reste pas toujours dans le vestiaire. De moins en moins même. C'est l'un des problèmes du Real Madrid et de l'Olympique de Marseille en cette fin de saison.
RMC, les GG sur le buzzer.
On est sur le buzzer. C'est la fin de saison et rien ne va plus effectivement dans les vestiaires des deux clubs parmi les plus populaires dans le monde du foot, hein, en Espagne et en France en tout cas. On n'en finit plus d'entendre parler des tensions à l'OM avec des joueurs agacés par les mises au vert à répétition imposées par la direction au milieu des mauvais résultats. Alors, info RMC tombée hier soir à minuit. Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté pour le match au Havre demain. Une décision qui intervient au lendemain d'incidents qui ont eu lieu à la commanderie lors de cette mise au vert. Certains ont organisé... On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on ne les a pas forcément, mais je vais vous dire les mots de Fabrice Hawkins qui nous donne les informations. Certains ont organisé une fête façon colonie de vacances, je mets les guillemets, qui aurait un peu dégénéré et qui ne passe pas auprès de la direction. C'est pour ça qu'Aubameyang n'est pas du déplacement. C'est allé encore plus loin au Real avant le Classico contre le Barça demain. Super le timing, les gars. Deux joueurs en seraient carrément venus aux mains. Enfin, en tout cas, ils se sont bagarrés à l'entraînement. Évidemment, ça enflamme la sphère médiatique. Nous, on en parle, mais pas que. Aussi les supporters. Les GG, je vous pose cette question ce matin. Real et Marseille, est-ce que on en fait trop, nous, journalistes, avec les tensions de vestiaire? Christophe Cessieux.
Non, on n'en fait pas trop. Ça existe, donc on raconte.
Fred?
Non.
Sarah?
Non.
Alizé?
Ah ben je suis le seul, oui.
Un petit peu quand même, Sarah. Alors vous savez que nous, dans la grande gueule du sport et sur RMC, on est toujours au cœur du réacteur. Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne, est en direct en ce moment de l'entraînement du Real. Salut Edgar!
Salut Georges, salut tout le monde.
Personne n'a de gants de boxe, il n'y a pas un octogone qui a été installé.
Ça va. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de caméras braquées sur Aurélien Tchouaméni, c'était particulier.
Ah oui.
Mais a priori, pas de gants de boxe en vue.
Parce que les joueurs concernés, c'est Tchouaméni et Valverde. On a la veille du Classico. Alors, tu as assisté à la conférence de presse du coach Arbeloa il y a quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'est passé vraiment dans l'intimité du Real? On peut dire quoi ce samedi matin?
Alors déjà, ce qui s'est passé par rapport à l'altercation. Mercredi, il y a eu une première altercation verbale entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et le lendemain, donc ce jeudi, la tension continue de monter. Et à la fin de l'entraînement, il y a une bagarre qui éclate dans le vestiaire entre les deux. Federico Valverde tombe, s'ouvre la tête et il perd connaissance quelques secondes. À ce moment-là, il est transporté à l'hôpital. Et le diagnostic final, c'est qu'il souffre d'un traumatisme crânien et qu'il est maintenant au repos forcé pour 10 à 14 jours. Le club d'ailleurs a sanctionné les deux joueurs pour cette bagarre, 500 000 euros d'amende pour chaque joueur. Alors ça a plongé le club dans le chaos, hein, puisque tu l'as dit, on est juste avant le Classico, c'est demain, et en plus de ça le Real Madrid peut officiellement perdre le titre demain. Et pourtant là, en conférence de presse il y a quelques instants, tout le monde ne parle que de cet événement-là. Je vous propose d'écouter les tout premiers mots d'Alvaro Arbeloa sur l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, c'était il y a quelques minutes.
Je suis fier de la fermeté avec laquelle le club a agi. Les joueurs ont demandé pardon, ça me suffit. Je ne vais pas brûler mes joueurs sur un bûcher public parce qu'ils ne le méritent pas, pour leur effort et leur engagement, pour l'amour qu'ils ont pour ce maillot, et je ne vais pas l'oublier. On peut tous se tromper et tous les deux méritent qu'on tourne la page. Ce sont deux champions d'Europe et je suis fier d'eux. On dit beaucoup de mensonges. C'est faux qu'ils ne sont pas professionnels et c'est faux qu'ils m'aient manqué de respect ou qu'ils ne jouent pas parce qu'ils ont des problèmes avec moi. Je ne vais pas le permettre parce que c'est totalement faux. Je suis responsable du fait qu'on n'ait pas été à la hauteur, mais durant ces 4 derniers mois, je suis fier des joueurs et de la façon dont ils m'ont accueilli. Parfois, la frustration et la colère provoquent des situations qu'on ne veut pas. On doit se concentrer sur le match.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le coach a précisé que des tensions entre des joueurs, il en avait vu dans tous les vestiaires où il était passé, et il a rappelé que pendant qu'il était à Liverpool, un de ses coéquipiers avait même tapé un autre coéquipier avec un club de golf qui avait déjà fait scandale en Angleterre à l'époque.
Mais il a pas dû taper fort quand même, parce que
un club de mini golf.
Ouais, c'est mal quand même. Un club de mini golf.
C'est quand même.
J'imagine.
Bon, là, il y avait pas de club de golf a priori.
Ah ouais, mais toujours plus.
Un coach qui protège ses joueurs, c'est bien.
Bah oui, exactement. Edgar, juste, tu nous préviens, tu observes tout, évidemment, s'il se passe quoi que ce soit devant toi à l'entraînement du Real où tu es en direct. On va d'abord écouter Alizé, puisque tu nous dis que pour toi, on en fait peut-être parfois un peu trop avec les tensions de vestiaire. Parce que pourquoi? Ça fait partie du sport de haut niveau.
Alors là, quand ça atteint ces extrêmes-là, où il y a un mec qui est envoyé à l'hôpital, je veux bien qu'on en parle. Ça fait partie aussi de l'information qui doit être délivrée au public et tout ça. Mais pour le reste, souvent, c'est quand même un petit peu. C'est des gossips, quoi. C'est des potins. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors qu'au final, et Fred, tu pourras pas me dire le contraire.
Laisse-moi répondre.
D'accord. Pour moi, oui. Alors, j'ai hâte de connaître la vie de Fred, du coup. Mais pour moi, dans tous les collectifs et dans tous les vestiaires, il y a évidemment des tensions qui se créent. Le problème, c'est quand ça fuite, mais c'est quand même quelque chose de très très courant. Moi, je l'ai expérimenté pas plus tard que le mois dernier en Billie Jean King Cup, des petites tensions entre les filles. L'essentiel, c'est que le lendemain, tout le monde reparte au boulot, tout le monde se remette dans la même vision, dans la même mission. Et c'est évident qu'un entraîneur, à ce moment-là, c'est son rôle aussi d'apaiser les tensions, d'être là et de vérifier que ça n'impacte pas trop la performance. Mais pour moi, quand on gère un groupe d'humains et quand il y a un groupe athlètes qui vivent ensemble tous les jours, évidemment, il y a des discordes, il y a des choses qui se passent.
Ça fait partie du sport de haut niveau.
Mais évidemment, et au final, on en fait des gorges chaudes, alors que, honnêtement, voilà, c'est juste normal dans toutes les sociétés. Alors là, en plus, c'est poussé à son paroxysme, parce qu'avec les émotions du sport, avec les égos, avec les
pression,
la pression, tout ça, bah voilà, ça prend des grosses proportions, et je pense que les égos dans les vestiaires, ça clash.
Mais toi, du coup, en plus, t'as l'impression de capitaine maintenant, ça t'a plus plutôt servi, en tout cas jusqu'à maintenant, à se dire les choses. Et en fait, on avance derrière. Ça peut permettre d'avancer.
Ça peut servir.
Même dans un moment.
Ce qui me dérange un peu, c'est quand il y a de la violence qui rentre en jeu, de la violence physique. Là, ça dépasse les bornes. Mais sinon, oui, c'est l'occasion souvent de crever des abcès, de se dire des choses. Et si les joueurs ou les athlètes sont un peu intelligents, il y en a forcément un à un moment donné qui va faire un pas vers l'autre et ça peut même renforcer un lien. Et après, on sait pourquoi on est là et on sait qu'on va dans la même direction, qu'on doit mettre des choses sous le tapis, qu'on doit faire des efforts. Mais en tout cas, voilà, moi je dis oui parce que je trouve que souvent, comme je l'ai dit, on en fait un peu des gorges chaudes et ça nourrit l'actualité alors que.
Fred, non mais toi, pour le coup, tu trouves qu'on en fait trop ?
Non, je pense pas qu'on en fasse trop. Je pense que ça fait partie de l'information. Je suis à moitié d'accord avec toi parce qu'effectivement toutes les altercations faut pas les citer, faut pas les mettre en avant, etc. Mais il y a des altercations qui sont néfastes au résultat et à partir de là, bien sûr, un journaliste, c'est quoi son job ? Expliquer le pourquoi du comment. Donc et si
toi t'as eu des séquences où il y a eu des altercations dans un vestiaire ?
Il y a eu des altercations qui sont restées dans le vestiaire parce que les résultats étaient là et c'est normal effectivement, il y a des égos et parfois il y a cette envie de
mais quand ça marche moins bien ?
Mais quand ça marche moins bien ?
C'est pas neutre ?
Pas neutre. Évidemment que c'est pas neutre parce que ça peut créer des
après, distorsions. Après, ce sont vos expériences à tous, c'est intéressant.
Ça peut créer des distorsions à l'intérieur de l'équipe et donc, comme par hasard, c'est ces équipes-là où les résultats ne sont pas là. Donc, logiquement, qu'on parle de toutes les altercations, je vous entends, effectivement, il ne faut pas le faire. Mais en plus, quand on parle de clubs comme l'OM, comme le Real, qui sont bien sûr scrutés bien plus que les autres clubs, et en plus, les performances n'étant pas bonnes, il faut qu'un journaliste. Fred,
oui, mais il n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants, et donc ce qui est raconté, c'est pas forcément non plus la réalité.
Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que si ça sort du vestiaire, déjà pour moi, c'est un problème.
Parce
que
on est d'accord là-dessus.
Tu tiens pas ton vestiaire. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème.
On n'est pas tous potes dans un vestiaire, ça on l'a bien compris, on en a parlé souvent.
On n'a pas besoin d'être pop pour réussir, mais par contre, on doit se respecter. Donc à partir du moment où on se respecte plus, je pense que le boulot d'un journaliste, c'est d'expliquer pourquoi ça ne va pas dans le vestiaire, parce qu'il y a un manque de respect.
En fait, le manque de respect, c'est un truc déterminant dans
ce. On peut se détester, mais se respecter.
Chris,
n'est-ce pas, Alizée ?
On en fait trop. On en fait trop.
Et moi, je t'aime.
On en fait trop. Nous, c'est notre travail de raconter ce qui se passe, même si moi, personnellement, en tant qu'être humain, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir que les mecs se mettent sur la gueule dans le vestiaire au Real ou à Marseille.
Tu veux dire quoi ? Ça explique pas forcément trop la performance.
Mais je pense que je suis pas représentatif des supporters qui aiment savoir ce qui se passe exactement dans leur vestiaire, essayent de comprendre pourquoi ça va mal et pourquoi derrière sur le terrain ça part en brioche. Donc je comprends que quand t'es supporter de l'OM, t'as envie vraiment de savoir ce qui se passe et quels sont les méchants, quels sont les taupes, quels sont les trucs. Mais après c'est le boulot de Florent Germain. D'Edgar d'aller chercher la petite bête et d'aller la raconter. C'est leur job, donc il ne faut pas leur taper dessus, ils sont payés pour ça. Et même si Florent Germain, je suis sûr, préférerait dire que du bien de l'Olympique de Marseille et que les mecs sont
tous copains, c'est pas
son boulot.
Non, mais leur travail, c'est de dire ce qui se passe dans l'intimité pour que vous, supporters, vous voulez savoir
un
peu ce qui se passe dans votre club.
Un journaliste, c'est pas un ami de la crèche.
Non mais exactement.
La différence des sportifs de haut niveau.
Non mais le supporter paye sa place pour aller au stade, il paye pour voir des gens jouer, des gens pour lesquels il est passionné, il veut savoir pourquoi ça ne marche pas. Parfois, c'est notre rôle. Sarah, on en fait trop ou pas ?
Non, on n'en fait pas trop. Encore une fois, c'est même pas une histoire de journaliste. Si ça sort des vestiaires, c'est qu'il y a quelqu'un qui les raconte. Les journalistes, ils sont pas dans les vestiaires.
Oui, donc c'est pas neutre.
Les fameuses taupes.
C'est pas neutre. Ça veut dire que quelqu'un le raconte.
Forcément, c'est encore une fois, c'est s'il y a des choses qui se passent et que ça sort. On n'a pas mis ni un micro dans les vestiaires, ni une caméra, ni un journaliste. Donc ça fait aussi partie aujourd'hui d'une mauvaise habitude qui est prise, c'est-à-dire que t'en as toujours un qui va envoyer en off un petit son, un petit truc. Tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Après,
je pense que ça vient des joueurs eux-mêmes.
Bah non, mais ça peut être des proches.
Les entourages. Enfin,
je veux dire, les
fameux entourages. Une source proche du joueur.
Ouais, une source proche. Dans Gala, il dit ça.
Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que je regardais là sur les réseaux sociaux des commentaires. Il y en a qui disent si ça s'était passé à Lens, on n'en aurait pas fait tout un pataquès. Mais vous avez raison.
Mais, complètement.
Mais vous avez raison, parce que le devoir d'exemplarité de ceux qui génèrent le plus d'argent, c'est le PSG, et puis c'est l'OM. Et ben oui, parce que l'OM, ils vendent des maillots à travers le monde, et puis parce que l'OM, ça a une image de marque, que ça les arrange bien de dire que l'OM, c'est un club connu dans le monde entier. Mais il faut en assumer les conséquences.
Si ça m'était au PSG, on en aurait fait encore plus, hein, mais, tu peux lui répondre.
Peut-être plus ou moins, ce que je veux dire, c'est que t'es une marque. Aujourd'hui, t'es un club de foot, t'es une marque.
Et puis évidemment,
t'as un devoir d'exemplarité.
Quand la séquence est ultra négative, ça prend plus d'ampleur, pour nous, évidemment, journalistes, et aussi pour les supporters. Tiens, justement, Grégory, supporter de l'Olympique de Marseille, est avec nous au 32-16. Salut Grégory.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est ma première. Bonjour. Dans les Grandes Gueules.
Bah écoute, bah merci, bah on est ravis de t'accueillir, Grégory. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, toi, quand t'as écouté les informations qu'on a données sur l'OM actuellement dans le vestiaire, avec Aubameyang qui est écarté, est-ce que pour toi, comme supporter, c'est très important finalement de savoir ce qui se passe actuellement pour comprendre la séquence actuelle négative de l'OM?
Alors, avant toute chose, j'ai un petit message à faire passer si possible.
Vas-y, vas-y.
Si vous avez des, je m'adresse aux auditeurs, si vous avez des joueuses qui veulent jouer au football, il y a un club, ça s'appelle la VGA Saint-Maur Football Féminin. C'est dans le 94. 6 titres de D1 gagnés.
Ben voilà.
Des tournois contre Brest, Le Havre, Lille, le FC Nantes, etc. Tremplin D1, D2. On a Kelly Gago qui est passé par chez nous. Et c'est un excellent club qui forme au football féminin.
Le message est passé, Grégory. Voilà. Effectivement.
C'est les petites annonces du genre, en fait, aujourd'hui.
Bon, et l'OM, pour le coup, ce qui se passe dans le vestiaire actuellement, est-ce que c'est important pour toi de le savoir, en fait?
Alors le savoir ou pas, je sais pas si c'est important. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait ce club, ce n'est décidément pas une institution. Il y a trop souvent de problèmes. À partir du moment où vous avez en 10 ans, 269 mouvements de joueurs, ce qui fait 27 mouvements par an, si on fait un calcul très simple, déjà on construit pas une équipe. À partir de là, est-ce que la stabilité existe dans ce genre de situation? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'on doit le savoir ou pas? Sincèrement, je m'en fiche. Par contre, ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. C'est lamentable de voir un club professionnel avec des gars qui gagnent autant d'argent se comporter comme ça. Là, on le disait au début de votre émission, d'accord, pour la présentation, on disait, en fait, c'est pas compliqué, c'est le bazar à l'OM sur le plan sportif, peut-être même sur le plan financier, peut-être même sur le plan du fair play, hein, on en reparlera peut-être un jour, ce qui se passe, et on a des joueurs qui ont fait la fête dans leur chambre pendant leur espèce de confinement, espèce de punition complètement débile, là. Mais alors, ça veut dire qu'en fait, dans une situation comme celle-ci, l'état d'esprit des joueurs, c'est de faire la fête. Eh ben, c'est pas professionnel, ça.
Mais voilà, c'est pour ça que...
L'année prochaine, on joue quoi? On joue la Ligue 2? On joue le maintien? Parce que là, ça en prend le chemin, là. Là, ça en prend le chemin. Le PSG, il peut gagner la tour, il peut gagner la Ligue des Champions à tour de bras, parce que c'est une super équipe. Il n'y a pas de problème. Mais nous, avant déjà d'en arriver là, faut déjà arrêter d'avoir des joueurs dans notre effectif qui sont démissionnaires. Le match pourri qu'on fait contre l'Orient.
C'est important pour vous, on a bien compris, pour le coup, de savoir ce qui se passe dans le vestiaire actuellement pour apprécier un peu l'implication en fait des joueurs.
La comprendre, dans la situation savoir actuelle. Exactement où on en est, exactement, bien sûr, c'est important.
Exactement, je remercie Grégory Desveniaux, 32-16, évidemment, d'avoir participé avec nous et pour son message, pour le développement du foot féminin, évidemment, on l'accompagne, bien sûr. Allez, les amis, dans un instant, on apaise les tensions du vestiaire des GG. Et on vient pour les jeux du sport. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport dans la ligne droite, tout de suite on joue.
RMC.
Le mousqueton là. Mousqueton. Oh mousqueton. Viens, on a une plan. Arrive.
Les jeux du sport.
Ouais, oui, parce qu'on s'est gagné aujourd'hui une enceinte Lexon minotée portable avec un mousqueton intégré.
Avec mousqueton.
Voilà. Et oui, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez l'emmener partout votre enceinte Bluetooth. C'est du 2 contre 2. Je vous rappelle, vous allez défendre un auditeur. On va faire aujourd'hui une bataille des sexes. Alizé Cornet et Sarah Pitkowski contre Christophe Sissier et Fred Weiss. Il y a des comptes à rendre, j'ai l'impression. Je rappelle que vous pouvez activer la question impossible.
J'ai complètement abandonné.
Question impossible, une bonne réponse, 3 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs Ludovic et Grégory. On les appelle du Nord et d'Eure-et-Loire aujourd'hui. Salut Ludovic et Grégory.
Bonjour tout le monde. Salut.
Bonjour, les amis. Bonjour. Ludovic, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cornet Pitkowski ou Cécieux Weiss.
C'est
chez
Alice,
s'il vous
plaît. Quelle
erreur. Ok, Ludo et donc Grégory avec l'équipe Cornet Pitkowski. Allez, c'est parti, les amis. Question à une seule réponse, les GG. Une seule réponse. Qui est le tenant du titre au Masters 1000 de Rome?
Sinner.
Non, éliminé.
Mais non, c'est Alcaraz qui est
éliminé. Alcaraz, ça, tout en tranquillité. Mais non, c'est Alcaraz, enfin. J'ai tout le temps pour le dire.
J'étais à deux doigts de dire Zverev, en plus, t'as vraiment quand
même. 1-0 pour l'équipe Cornet-Pitkovski. Question à une seule réponse.
Une seule ou plusieurs?
Non, finalement, une seule, parce que je trouve que ça, c'est simple. D'où s'élancera cet été le Tour de France?
De Barcelone.
Christophe Cessieux.
Ah bon? Je pense qu'il a démarré avant.
Parti plus tôt. Parti plus tôt.
Moi, je l'observe.
Question pour vous, Ludovic et Grégory. Je vous pose la question et vous dites votre prénom ensuite, comme ça je sais qui a donné la réponse. C'est OK pour vous?
OK.
Donc par exemple, vous dites Christophe Cessieux, Ludovic, hein, tu vois, comme ça je comprends. Allez, c'est parti. Quel cycliste français a annoncé cette semaine qu'il
Grégory.
Grégory, bien joué.
Bien, Greg, bien joué. Si je peux me permettre de taper Greg.
C'est vrai que c'est directement familier, quoi.
Moi, je suis comme ça, moi, tu sais.
Ouais, c'est l'agrégance. Ça fait 2-1 pour l'équipe Cornet-Pitkovski. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Ou si jamais c'est vous tombez en plein dedans, c'est bon. Quel est le record du monde du saut à la perche détenu par Mondo Duplantis?
6,27.
Non.
Non, je vais dire 6,22. 6,22, moi, je reste.
6,30.
6,29.
C'est 6,31, donc c'est Alizé qui marque. Chris, t'es pas assez stratégique sur ces questions-là.
Non, mais je m'en fous.
À chaque fois, tu donnes.
Tu sais quoi? Je m'en fous. Je réponds quand je peux et je réponds pas quand je ne peux pas. Voilà.
Libre à toi.
Il est pas content.
Libre à
toi. Non, 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 je ne m'implique plus.
6,31 quand même, les gars. On en parle ou pas?
Question à
une... c'était une question plus rapide.
Ben non, je ne l'ai pas dit. Question à une réponse. Question à une réponse. Qui est le dernier cycliste français à avoir remporté le Tour d'Italie?
Mais il y en a pas.
Laurent Fignon.
Laurent Fignon.
Ah bravo, ouais, bien joué.
Bien joué Christophe, j'ai l'impression que finalement tu t'en fous pas.
Non, non, quand j'ai la réponse, je la donne.
Mais... bah oui, c'est
pas
c'est pour ça que je parle
c'est
pas.
Je le kiffe, j'adore. Franchement. Je pense que
le mec il joue à un jeu, il dit bah, quand j'ai la réponse, je la donne en fait.
Mais si j'ai de l'argent, je paye si je dois payer.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est le principe de payer, ouais. Question auditeur. Pour vous, Ludovic et Grégory. Et alors là, c'est Fred qui va valider la réponse. Donnez-moi, s'il vous plaît, un Français hors Wembanyama qui joue en NBA.
Il y en a plein.
Bah oui.
Bah oui, mais un.
Un seul. Hors Wembanyama qui joue en NBA.
Qui est en face de Wemby.
5, 4, 3.
Merde,
2,
le con.
Minneapolis.
0. Le con ne joue pas en NBA. voilà.
Il y a le Bron, mais pas le con.
Le corn. Ça aurait pu être un blast.
Attendez, les gars, attends, on s'arrête là quand même. Voilà. Pas un seul joueur français qui a. Non, c'est
tu
pas
vois, tu vois, Fred. Le basket a encore du mal à rentrer dans
Fred.
Dans
voilà où on en est.
Mais il n'arrête pas de nous dire que c'est le deuxième sport mondial.
On est vraiment un pays d'inculte.
Question à élimination, vous répondez à tour de rôle. Vous êtes éliminé, c'est pour 2 points. Je vous rappelle, il y a 3-2 pour l'équipe Cornet-Pitkovski. Citez-moi tout simplement tous les joueurs du PSG cette saison. Alizé.
Dembélé,
le ballon d'or. Christophe.
Il triche, monsieur, dame. Il triche.
Sarah, arrête. Lucas Chevalier.
Elle note.
C'est Sarah, non? Barcola.
Autant parfois elle triche, mais là elle ne triche
pas. Mais Fred. Ça vous a.
Doué. Et elle triche parce qu'elle a montré à.
Non,
Doué.
Pas du tout.
Oh, Alizé.
J'y connais rien. Putain.
5.
Ah oui, Bitinia.
Vitinha.
Je l'ai dit
avec le espagnol. BCB. Rigole.
Il est portugais.
Ça compte quand même.
Pacho.
Pacho. Sarah.
Neves.
Jean Neves.
Hakimi.
Alizé.
Non, j'ai plus.
5, 4, 3. De
oui, j'ai marqué.
Marquis, ça passe, c'est
ça
bon.
Safonov.
Safonov.
C'est à moi. Il me manque.
5.
Gvarach Kela, là.
C'est bien. C'est ouf, t'arrives à dire Gvarach Kela, mais t'arrives pas à dire Ekitike, quoi.
Non, je.
Fred.
Ils m'ont tout pris, là.
Ouais. 5.
Il m'en manque encore.
3, 2,
je sais pas.
1. Éliminé, Alizé.
Donc c'était Marquinhos, 5, je tiens à le redire. Ah non, moi j'ai 3, plus non plus.
2, 1, éliminé. C'est Christophe et Sarah, le gagnant gagne le jeu. Christophe.
Zahir Emery.
Warren Zahir Emery, c'est bon. Sarah Pitkovski.
Sarah, dépêche-toi.
5, 4, 3.
Qu'est-ce qui me manque?
2, 1.
Je l'ai plus.
Zéro. Maillot éliminé.
Mayulu
et la victoire est pour l'équipe de Christophe Pessier. Incroyable, il gagne grâce au PSG. Alors qu'il ne veut jamais parler de foot. Le foot l'a sauvé. C'est important de le dire.
Le PSG,
ils ont gagné, ils ont gagné le jeu là.
Bravo Ludovic.
Oui, on menait 3-2, c'était à 2 points.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Chris Melkorn, le célèbre, il dit mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien de célèbre, on est content pour toi.
Bravo les gars, bien joué.
Bravo Christophe, bravo Fred.
Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Ah oui, David, t'as raison. Toujours, allez, toujours.
Je crois que tu devrais en prendre toi aussi, gars.
D'où il sort, David ?
Mais c'est toi qui viens de le faire parce que tu fais tous les bruitages. Merci Alizé Cornet, merci Sarah Pitkowski.
Merci à tous.
Les grandes gueules du sport vous donnent rendez-vous demain depuis Le Mans, dans la Sarthe. Circuit Bugatti, Grand Prix de France MotoGP. Un an après la victoire de Johan Zarco, on sera sur place. Avec vous au 32-16, à tout de suite sur RMC pour les paris RMC.